RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Motors, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport mécanique. Julien Ingracia sera des nôtres tout à l'heure, exclu Motors, le copilote de Sébastien Ogier en direct avec nous pour bien confirmer que ce duo déjà légendaire du WRC sera bien d'attaque pour le championnat du monde des rallyes 2018. C'est évidemment une excellente nouvelle. Puisqu'on parle de 2018, on évoquera aussi le Dakar, dont le parcours a été dévoilé il y a quelques jours. Nous aurons le plaisir de recevoir Yvan Muller, qui est sorti de sa retraite de pilote ce week-end à l'occasion de la finale du championnat du monde des voitures de tourisme. Il nous dira pourquoi. Mais je vous propose de commencer par la Formule 1, bien sûr, avec le rideau qui est tombé la semaine dernière à Abu Dhabi sur la saison 2017. Et il faut bien avouer que ça s'est terminé un petit peu en demi-teinte. On va en parler avec Jean-Luc Roy, qui est avec nous. Salut Jean-Luc.
Et salut LFB, bonjour à tous.
Bon, ravi de te retrouver, tu es en pole position aujourd'hui dans Motors, Jean-Luc, mais malgré tout, c'est pas toi qui va commencer, c'est Julien Tellier qui est avec nous en direct pour le rugby. Eh bien oui, c'est la 12e journée du top 14 et une belle affiche, Clermont-Agen. Julien donc, tu es notre envoyé spécial, où en est-on?
On en est à la 33e, salut à tous, et le score il est en faveur des Clermontois qui ont fait une excellente entame, un essai dès la première minute, et puis ensuite Agen qui fait un match complexe et qui joue très bien. Agen a d'abord égalisé, Agen est passé devant 12 à 7 et les Clermontois ont remarqué un essai signé Pesceli Yato, le numéro 8 fidjien là, qui sur une passe de McAllister a signé un joli petit cadrage débordement sur le dernier défenseur pour aller aplatir quasiment sous les poteaux et s'est transformé par McAllister. Les Clermontois qui ont repris l'avantage 14 à 12, 2 points d'avance donc pour Clermont, on était à 7 minutes de la pause.
Ok Julien, on te retrouvera régulièrement dans Motors pour faire le point sur ce match.
RMC Motors dans le rétro.
Allez, la première rubrique aujourd'hui avec toi donc Jean-Luc pour parler Formule 1, pour déjà rappeler hein, que c'est bien Valtteri Bottas qui a gagné le dernier Grand Prix de la saison, c'était la semaine dernière à Abu Dhabi, il a devancé Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Donc voilà, ça y est, c'est terminé, la saison 2017, elle est pliée, on va assez vite se projeter évidemment sur 2018, mais je voudrais avec toi aujourd'hui Jean-Luc commencer notre débat par un peu t'interroger sur notre champion du monde désigné, Lewis Hamilton, qui, on aurait quand même tendance un petit peu à le penser, a raté sa fin de saison. Est-ce qu'on est un petit peu injuste en disant ça, ou est-ce que tu penses que c'est pas loin d'être vrai?
Écoute, quand on a remporté 9 victoires dans la saison, effectivement, la dernière étant aux États-Unis, c'est vrai qu'on se dit que comme il reste 3 Grands Prix, logiquement, on devrait au moins remporter un. Bon, ça c'est la logique. Après, on sait très bien que quand un champion est titré, ce qui était le cas au Mexique, où on rappelle qu'il est parti de très très loin derrière pour des raisons qui ne lui incombaient pas, bah dans ce cas, effectivement, on est frustré. Alors on se dit qu'il reste 2 Grands Prix et qu'Hamilton va mettre un point d'honneur au moins à en remporter un. Et tu vois, je te fais le décompte à l'envers. Et puis, on arrive au Brésil où là, il l'a fait, la boulette. Voilà, il l'a dit. Là, il a fait la boulette. Là, c'est clair. En qualif, il se loupe lamentablement, on va oser dire, pour un quadruple champion du monde. Bon, il finit dans le rail pitoyablement, mais il y en a d'autres. On va pas l'accabler. Il reconnaît, il dit ok, c'est ma faute, c'est bon.
Ça peut arriver dans une année. On est quand même... assez honnête de le dire, oui.
Oui, tout le monde le dit. On fait une boulette quand même dans la saison, aussi bon soit-il. Donc là, c'est à peu près normal. Quant au dernier Grand Prix, écoute, il y a plusieurs explications. La première, c'est que je pense que Bottas, effectivement, a bénéficié, j'ose le dire malgré tout, d'un peu plus d'attention sur les derniers Grands Prix, parce qu'évidemment, l'objectif numéro un de Mercedes était d'avoir un des pilotes champions du monde après que le titre constructeur ait été acquis très tôt. Donc, il fallait effectivement titrer Hamilton, en l'occurrence, face à Vettel. Et puis après, on se dit, il y a quand même un type qui a du talent, un type qui mérite de gagner son 3e Grand Prix. Et c'est Bottas. Et donc, peut-être qu'on s'intéresse un peu plus à lui. Et puis, peut-être que Bottas est débridé aussi, parce que c'est le cas de le dire. On lui demande plus d'aider Hamilton à décrocher le titre. On lui dit, vas-y, mon gars, si tu peux en prendre un, tu y vas. Et il le fait. Et ça se joue en qualif, comme on a compris. On va en venir au déroulé du Grand Prix dont tu parlais. Ça n'a pas été le plus beau de la saison, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Donc, effectivement, Bottas a fait la pole. Il est resté devant et puis terminé. Alors, est-ce que Hamilton a raté la fin de sa saison? Oui, en partie, puisqu'il n'a pas remporté un des 3 derniers Grands Prix, mais je dirais quand même non, parce qu'il était à son niveau et que c'est pas honteux de commettre une erreur et de se faire dominer par son équipier qui, là, sort un tour extraordinaire en qualif. Voilà.
Bon, écoute, oui, j'admets tout à fait tes arguments. J'ai fait les comptes quand même. Si on prend en compte que les points marqués lors de ces 3 derniers Grands Prix, alors évidemment, c'est une partie infime un petit peu d'une saison qui comptait 20 Grands Prix, mais quand même, Hamilton n'est que 5e. S'il y avait eu ce mini sous-championnat du monde sur les 3 derniers Grands Prix, il ne terminait terminé que cinquième. Eh oui, bon.
Bah, c'est clair. Mais je te dis, l'objectif principal était atteint. Bon, moi, je te ressors évidemment 208 départs en Grand Prix, 62 victoires quand même. Et 62 victoires, il n'y en a plus qu'un devant. C'est Schumacher avec 91. Mais encore une fois, on va pas y revenir. Schumacher, bon, c'est autre chose. Voilà, donc on oublie. C'est quand même le deuxième sur les tablettes. Dans les pôles, c'est le premier. Et 72 pôles positions.
On parle bien de l'histoire globale de la Formule 1. Hein.
Mais
faut
oui,
bien en avoir
mais
conscience.
Oui. Et pour les podiums, il a quand même au total 117 podiums sur 208 Grands Prix disputés. Mmh. Ça veut dire que plus de la moitié des fois où il a pris un départ de Grand Prix, il a terminé dans les trois premiers. Non, écoute, je crois que tu as raison, on pouvait s'attendre à mieux, on pouvait espérer, enfin pour lui d'ailleurs, hein, qu'il en décroche au moins un, bah ça a pété le cas, moi je vais te dire, ça ouvre le jeu. Voilà, oui. C'est pas mal, parce qu'effectivement, bah ça a permis à Vettel de s'en faire un, ça a permis à Bottas également
oui, d'en gagner un. Et puis Verstappen aussi.
Le troisième larron, Verstappen. Donc moi je dis que cette fin de saison, bah finalement, elle a été super.
Bon. Hein. Alors, non, juste le dernier argument qu'on peut opposer en quelque sorte à Hamilton, et je vais te l'énoncer tout de suite, c'est le souvenir de l'année 2015, où Hamilton, aussi titré bien avant la fin de saison, avait laissé Nico Rosberg gagner les derniers Grands Prix de la saison. Et on a toujours eu un peu le sentiment que ça avait mis Nico Rosberg sur une bonne dynamique pour commencer l'année 2016. Et effectivement, on sait bien que c'est Nico Rosberg qui a été champion du monde en 2016. Donc là, c'est vrai qu'on a pu se dire, est-ce que c'est pas un petit peu la même histoire qui s'est répétée deux ans plus tard ?
Alors, oui, mais si tu permets, puisque c'est un débat et c'est fait pour ça, moi j'ai regardé la fin du championnat 2016. Eh bien, la dernière victoire d'Hamilton, c'est au Japon, d'accord? Au Japon, il fait 9 victoires, exactement comme en 2017. Et ensuite, eh bien, effectivement, attends, je te dis une bêtise au moment où je te parle. Non, il a 10 victoires. Il a 10 victoires.
C'est ça.
On est d'accord. Mais je parlais bien de Rosberg. Non, c'est bon. Ma démonstration, c'était celle-là. Le champion du monde était Rosberg.
Oui.
Et le champion du monde a terminé 4 fois quatrième lors des derniers Grands Prix.
C'est ça.
Derrière qui? Ben derrière Hamilton. Donc si tu veux qu'il y ait, et pourtant ils étaient en bagarre pour le titre, hein, comme tu t'en souviens.
Oui, ça s'est joué jusqu'au bout, oui.
Ah, ça s'est joué jusqu'au bout. Donc si tu veux qu'il puisse y avoir effectivement des bascules d'un côté ou l'autre, quand tu as une écurie qui domine, puisque malgré tout Mercedes était quand même les plus forts, hein, même si encore une fois Vettel en a arraché un, mais moi je pense qu'effectivement, disons que la surmotivation d'un pilote comme ça pour décrocher un titre, bah, il ne l'a plus à partir du moment où ce titre est tombé. On peut pas en faire le grief à Hamilton. Voilà.
Bon.
C'est comme ça. Alors est-ce que ça met Bottas sur la voie d'un titre en 2018? Bah écoute, si on a déjà une belle bagarre entre ces deux-là, plus quelques autres, on va y venir, ce sera pas mal.
Hein. Oui, tout à fait. Bon, écoute, allez, on conclut qu'il n'y a pas péril dans la demeure pour Lewis Hamilton, qui a peut-être tendance parfois à se relâcher en fin d'année, mais on a l'impression que ça reste toujours évidemment ce formidable compétiteur qu'il est, avec désormais 4 titres au compteur. Je voudrais juste te proposer d'écouter une interview quand même exclusive qui a été réalisée cette semaine par Louis Amar. Cyril Abedboul, hein, bien sûr, le patron de l'équipe Renault, en effet, en tout cas le team principal, est revenu un petit peu sur le bilan de la saison 2017 de Renault, donc c'est important quand même de l'écouter. Et on va donc détailler ça. Cyril Abedboul, sixième hein, Renault finalement au championnat du monde des constructeurs. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Je pense surtout que ça permet de démontrer à tout le monde que l'écurie Renault elle est de retour, elle est capable de progrès, elle est capable également de délivrer selon des cibles que l'on se donne. Alors, on s'était donné une cible de cinquième en début de saison qui était extrêmement agressif. Je rappelle que l'année dernière on a terminé neuvième, donc on est passé de neuf à six, ce qui est quand même un progrès significatif. Si on regarde un tout petit peu plus dans les détails, la voiture, en termes de perfo pur, elle était à peu près huitième en début de saison, donc on était quand même un petit peu inquiet, mais on savait qu'on avait eu un hiver extrêmement compliqué parce qu'il y a tellement de changements à gérer en parallèle. Mais elle termine quatrième en termes de vitesse pure. C'était très clair à Abu Dhabi. Donc passer de huitième à quatrième, ou en tout cas de neuvième au championnat à sixième au championnat, c'est une progression. Maintenant, cette progression, on a besoin à un moment de la démontrer également à l'extérieur. Et terminer effectivement sixième, c'est une bonne façon de le faire. J'essaie de pas être trop dans le rétroviseur, parce qu'on peut avoir pas mal de regrets sur la saison. Il y a effectivement deux regrets. Effectivement, on avait un line-up de pilotes qui était, on va dire, hétérogène. Hein. Vous avez parlé des points qui ont été scorés par Nico. Bon, c'est comme ça. On a fait le nécessaire. Ce qui importe, c'est qu'on a fait, on s'en est rendu compte. Le pilote, c'est un aspect de la saison négatif. L'autre aspect de la saison négatif, c'est la fiabilité, évidemment. Pareil, on peut dire que sur les pilotes, on perd des points, mais sur la fiabilité, on a perdu à peu près 45 points. On aurait terminé avec 100 points. 100 points, c'était facile, cinquième au classement. Donc c'est l'autre, je dirais, motif d'insatisfaction. En tout cas, axe clairement d'amélioration pour l'année prochaine. Il y avait cette étape intermédiaire d'être cinquième cette année. On aurait pu le faire. L'année prochaine, il va falloir continuer de progresser. Podium, pas podium. Soyons honnêtes, on sait quand même que les trois écuries de tête resteront trois écuries de tête. Je ne sais pas dans quel ordre l'année prochaine. Mais je pense que c'est important parce que c'est-à-dire si on vit vise pas le plus haut, on va jamais l'atteindre. Ça permet de motiver les troupes. Il faut être quand même raisonnable dans la façon dont on gère les attentes des uns des autres. Mais je pense qu'encore une fois, on a démontré qu'on était capable de progresser et que donc ce qu'on racontait n'était pas forcément absurde par rapport aux moyens dont on disposait. Je pense que ça va être plus compétitif en haut. Je pense qu'il va y avoir en bas également plus de compétitivité. Je pense, quand je dis en haut, je pense qu'effectivement Red Bull, Ferrari, Mercedes, voire peut-être McLaren peuvent avoir une situation, donner un spectacle assez intéressant. Je pense qu'il y a des écuries comme Sauber qui vont extrêmement progresser. Je fais confiance en Fred pour ça. Je pense qu'il va y avoir un Williams, Sauber, Haas, peut-être Force India. Et j'espère que nous, on va être un peu entre les deux. Peut-être commencer dans le deuxième groupe en début de saison et puis essayer de progresser vers le premier groupe dans le courant de la saison, comme on l'a démontré cette année.
Voilà, un discours assez franc de Cyril Abitbol, qui n'a pas hésité à revenir sur ce qui avait peut-être coincé dans cette année 2017. Mais on a bien aussi compris qu'il y avait des ambitions chez Renault. Alors Jean-Luc, si on se projette sur 2018, force est quand même de constater que cette année 2017 se termine moyennement. Le dernier Grand Prix n'a pas été bon, ça c'est quand même, je crois, unanime. Tout le monde le dit. Les équipes ont moins de revenus, donc ça grogne au sein même de la Formule 1. Il y a des règlements qui arrivent peut-être pour la protection des pilotes qui sont loin de faire l'unanimité. Enfin voilà, tu vois, il y a quelques voyants qui sont pas complètement au vert. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Est-ce que tu dis que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude ou est-ce que c'est après tout chaque année la même chose?
Écoute, tu sais ce que je vais te répondre très probablement, puisque je sais que évidemment tu écoutes ce que nous disons et ce que je dis depuis plusieurs années maintenant. Oui, il y a plusieurs dangers. Un mot, si tu veux bien, sur Renault, juste pour dire que Cyril Abitbol, qu'on aime bien et qui se barre, doit avoir des ambitions plus élevées, parce qu'il parlait de toutes ses équipes. Oui, mais eux, c'est une équipe d'usine. Moi, je crois que clairement, c'est la quatrième place qu'ils doivent viser et pas autre chose. Maintenant, ils ont une belle équipe de pilotes, et s'ils l'avaient pas, c'est de leur faute aussi. Ils avaient choisi effectivement un deuxième pilote qui était nettement en deçà. Maintenant, ils ont deux pilotes qui sont des calibres. Et puis, encore une fois, quand on est une équipe d'usine, on vise évidemment le meilleur, comme il l'a dit. Bon, voilà. Ça, c'est pour l'objectif de Renault. Pour moi, c'est quatrième.
Et constructeur, quatrième du championnat du monde des constructeurs,
Bien sûr. Quatrième au championnat du monde des constructeurs, je crois que c'est une évidence. Puis il a oublié McLaren, justement. McLaren-Renault, donc à mon avis, qui va sûrement leur poser des problèmes aussi, parce qu'à l'équipe Renault, parce que c'est des rapides. Bon, maintenant ta question qui est plus générale. Bah, écoute, il y a un problème, j'y reviens, un problème de moteur qui est une évidence absolue. Écoute, moi je le dis depuis 2014, ce moteur, c'est un ratage total. Il coûte beaucoup trop cher aux équipes, et tu as parlé de l'aspect budget et l'aspect rémunération. Bah, quand on commence à mettre environ 20 millions de dollars par an pour acheter 4 moteurs et l'an prochain 3 moteurs, c'est totalement débile. Je suis désolé, mais à une époque, et j'en parle régulièrement avec plein de responsables d'équipe et plein d'anciens pilotes qui me disent, mais attends, c'est une folie furieuse. Et puis limiter également dès qu'on change de moteur, c'est-à-dire dès qu'on dépasse le quota, imposer des pénalités qui viennent lire une nouvelle fois la grille par l'arrière, ça c'est débile aussi. Qu'est-ce que tu veux? Les vrais dangers, ils sont là. Évidemment qu'ils sont là. Alors après, bien sûr que, tiens, on vient de changer de logo. Alors là aussi, on avait d'ailleurs l'accueil.
Un changement
l'accueil
de logo pour la Formule 1. Vrai qu'avant, il était pas mal, il était astucieux. Il y avait un qui était caché entre... pas mal. Mais il paraît que ça convient plus, tu vois, à l'aspect un peu moderne, marketing, réseaux sociaux.
Bon. Écoute, c'est pas très grave. De toute façon, là, c'est du marketing, c'est le cas de le dire. Et Charles Carré, donc, est effectivement celui qui est chargé du marketing, Sean Bridges, ont décidé que c'était comme ça. On va pas critiquer pour critiquer. Moi, je vais dire que je m'en fous du logo de la Formule 1. C'est pas le plus grave, c'est pas le plus important. Mais comme tu le disais, il faut avoir des belles courses. Et pour ça, il faut permettre effectivement aux écuries moyennes de devenir très bonnes et de venir lutter avec les meilleures. Alors, tu parlais aussi de sécurité. Là aussi, c'est un peu l'expérience scientifique avec la mauvaise conclusion qu'on tire d'un constat. On va imposer le halo. Alors là, je vais te dire, là aussi, moi, en aparté, tous les pilotes sont contre. Il y a ceux qui ont un discours politique en disant « Ouais, enfin, c'est pas mal. » Non, mais c'est débile. Faut voir ce que ça va donner. Alors on me dit ça va évoluer esthétiquement aussi. Si ça apportait réellement et de manière incontestable une sécurité supérieure pour les pilotes, formidable. Encore une fois, je vais pas dire le contraire. Mais les pilotes eux-mêmes te disent que c'est moche comme tout et que ça va les empêcher de voir correctement. Au départ, on n'a toujours pas répondu à cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour les pilotes sur la grille en levant les yeux pour voir le feu rouge? Alors c'est l'ingénieur qui dans les oreilles va leur dire ça y est, green, tu peux y aller. Non mais c'est n'importe quoi. Mmh. On va altérer la vision des pilotes. Donc ça va obligatoirement, à un moment ou à un autre, dans la saison ou dans les qualifs, initier un accrochage, parce que le pilote, il verra moins bien. Je suis désolé. Mmh. Et ça, c'est un élément de sécurité vachement important. Donc oui, il y a de quoi être inquiet. Je rebondis sur ta question initiale. Il faut que la F1 réagisse. Et je vais te dire, il y a vraiment des mesures drastiques à prendre et on les attend un peu, hein, pour le moment. Oui. Parce que on a parlé de ce moteur 2021 pour essayer d'attirer de nouveaux constructeurs. On parle d'Aston Martin qui fait son apparition. Tiens, Alpha Romeo.
Alors, Alpha Romeo, oui, ça y est. Voilà. Un retour avec, on va dire, un affichage, on va dire ça comme ça, sur les monoplaces Sauber, hein, ça sera vraiment Alfa Romeo Sauber Team.
Bon, ça c'est très bon, effectivement, c'est une nouvelle marque qui a aussi une grande histoire en Formule 1, c'est une marque connue et reconnue, sportive, du groupe FCA, hein, évidemment, donc ça aussi c'est une décision, on sait d'où elle vient, de Sergio Marchionne, mais très bien, tout ça me va bien. En revanche, il faudrait déjà essayer de conserver les motoristes actuels. Or, si tu les écoutes, que ce soit Mercedes, effectivement, que ce soit Renault, que ce soit même Honda maintenant finalement commence à dire que c'est pas terrible, et puis Ferrari je t'en parle pas, ils ont menacé de se retirer si on imposait le moteur tel qu'il est apparemment prévu en 2021. Donc là il y a un vrai problème de fond, et quand on sait qu'effectivement tout est lié et que pour travailler sur ce type de décision mécanique il faut s'y prendre bien avant. Mais on entend, écoute, Hamilton lui-même il a dit mais revenons, et il est pas le seul. Pierre Gasly il a dit revenons au V12 avec des moteurs qui tournent à 18 000 tours, on va se régaler. Bon, bah attends, là c'est pas avec des petites touches comme ça pour aménager le pitoyable 1.6 V6 hybride qu'on va arriver à. On en est à faire du bruit, mais je te dis, mais il y a qu'à mettre des cartes dans les roues. Là c'est de l'humour, hein. Comme on faisait dans les vélos, tu sais, quand on était petit, pour faire du bruit parce qu'on n'avait pas de moto. Bon, mais c'est un peu ridicule, quoi, tout ça. Je pense qu'il faut une vraie décision de fond, et je m'inquiète de voir que dans les routosphères, on n'est pas prêt à la prendre, hein, cette décision.
Oui,
on
ça.
Est prêt à des petits aménagements assez marginaux, il faut bien le dire.
Alors Jean-Luc, je te confirme que tu étais en pole position tout à l'heure et que là tu es bien parti, hein. Là tu es en tête du Grand Prix,
chaud.
Là. T'es
chaud,
là.
Chaud là.
Bon ben je vais devoir hélas agiter le drapeau à Damier parce que on arrive au bout de ce premier talk et je crois que oui, on pourrait en parler des heures et je sens que tu pourrais en parler des heures. Bah écoute, le débat est posé pour cet hiver où on va pas arrêter évidemment d'anticiper par rapport au début de la saison 2018 et on continuera ce débat, on rentrera dans les détails tout au long de l'hiver, mais en tout cas bon, t'as bien commencé, je te confirme.
Bon ben ça va. Merci à l'FB de m'avoir donné l'opportunité. Non, et puis un coucou à Yvan Muller pour son retour.
Voilà, hein. Juste après toi, oui, on va.
Quatre fois champion du monde.
Voilà.
Et puis bravo évidemment à Julien et Ingracia, formidable ce qu'ils ont fait. Voilà.
Ouais,
je sais que tu vas les avoir.
Voilà. Bon, bah merci Jean-Luc. Allez, bon dimanche à toi. À très vite. Allez, juste avant nos autres invités, oui, et un petit détour de nouveau par le rugby, donc la 12e journée du Top 14. Clermont-Agen, Julien Tellier.
C'est la mi-temps à Clermont et c'est Clermont qui est devant à la pause 21-12 pour les Auvergnats. Trois essais, Clermontois signé 20, Maïna dès la première, Yato la 29e, Kaiser la 38e, et côté Agen, doublé de Georges Tinsley, 16e et 27e. 21-12 pour Clermont face à Agen à la pause.
Ok, et puis un Julien chasse l'autre et on va prendre la direction de la Suède. Cette fois-ci, il y a du biathlon également au programme. Salut Julien Richard.
Salut. Elles font pas de bruit, mais elles ont un gros moteur aussi, les filles de cette poursuite 10 km avec une Française qui est très bien placée, Justine Brezaz en deuxième position. Après 3 km 600 de parcouru, déjà un tir, elle a fait un sans faute. La jeune biathlète française, 21 ans, à 19 secondes maintenant de la leader de cette course, l'Allemande Denise Herrmann. On est encore loin de l'arrivée, hein. Il reste 3 tirs à effectuer, mais pour l'instant, elle est dans le coup, la Française Justine Brezaz.
Bon, bah, on se retrouve dans quelques instants. Pas de problème. Allez, vous restez avec nous. Motors continue. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors.
190, 150 mètres, droite 120.
Le briefing qui nous permet d'accueillir un nouvel invité de choix, c'est Yvan Muller qui est avec nous en direct. Salut Yvan.
Salut, bonjour à tous.
Ah, écoute, ça nous fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui en direct. Dois-je rappeler que tu es évidemment un quadruple champion du monde, hein, comme Lewis Hamilton, comme Sébastien Vettel, en matière de voiture de tourisme, hein, mais ça le fait déjà très très bien, que tu es l'incontestable meilleur pilote qui ait jamais existé sur terre, sur glace ou sur neige, hein, puisque tu as gagné 10 fois le trophée Andros, que tu as gagné les voitures de tourisme en Angleterre en 2003, que tu as fait 2 fois le Mans, enfin bref, non, je t'ai plus, tu es une véritable légende du sport automobile français, tu as pris ta retraite quand même il y a quelques temps, et alors j'apprends que tu es revenu aux affaires ce week-end. Alors Yvan, pourquoi es-tu sorti de ta retraite pour aller au Qatar faire la dernière manche du championnat du monde des voitures de tourisme?
Effectivement, j'ai pris ma retraite il y a un an pile, et puis mes nouvelles fonctions que j'ai prises chez le team Polestar Cyan ont fait que pendant toute l'année, j'ai été très impliqué dans cette équipe, en les conseillant du mieux possible pour atteindre l'objectif fixé d'être champion du monde.
Voilà, donc c'est la marque Volvo hein, qui est responsable de cette structure, évidemment. Ouais.
Voilà, la marque Volvo, donc j'étais là pour les aider et de les conseiller. Mon rôle est celui de senior advisor. Alors, je sais pas comment je dois prendre le terme senior, mais
oui,
je vais bien le prendre.
Bah oui, c'est l'expertise, c'est l'expérience, voilà.
Voilà, on va dire ça. Tout au long de l'année, évidemment, je montais régulièrement dans la voiture pour faire du développement. C'était aussi un de mes autres rôles que j'ai dans cette équipe. Et arrivé à la dernière épreuve, ils m'ont demandé si je voulais bien remettre le casque, faire une pige pour les aider à remporter ce titre à la dernière épreuve. Ce dont j'ai évidemment répondu présent parce que je m'étais jamais fermé la porte de refaire de temps en temps quelques piges. Bon. Et cette occasion était une bonne occasion.
Bon, donc tu nous confirmes quand même que c'est une pige effectivement et que tu vas pas remettre le casque et revenir en compétition régulièrement.
Non, c'est pas prévu.
Bon, ok. Cela étant, dis donc Yvan, mais... Alors, les objectifs ont été remplis, hein. C'est bien Ted Bjork, le pilote Volvo qui a été sacré champion du monde donc au Qatar ce week-end. Donc voilà, mission remplie. Et toi, je vois que tu fais 6 et 7 des deux courses. Attends, c'est fabuleux.
Oui, mais le résultat n'était pas important. Ce qui était important, c'est que je puisse être autour de Ted justement et de le protéger et marquer des points pour le titre constructeur. L'objectif étant atteint. Après, ma position était peu importante. Moi, je me suis pendant les deux courses tenu proche de Ted, de le protéger, de lui servir de garde du corps pour lui éviter des embûches. Donc l'objectif était atteint. Après, je suis pas mécontent de ma performance. En qualif, j'étais en Q3. Je tente un coup en faisant une pole. Bon, ça marche pas. Et finalement, je fais P5. Donc, mais c'était plutôt sympa. Et le résultat final, encore une fois, pour moi, n'était pas important.
Bon, attends, je vais quand même insister un petit peu. On apprécie ta modestie. Elle est toute à ton honneur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'Yvan, quand même, d'accord, t'avais un rôle un peu d'aider ou d'empêcher à l'autre adversaire de marquer des points. D'accord. Mais tu aurais pas terminé dans le top 10. Personne te l'aurait reproché. Là, tu fais 6 et 7. Tu reviens de retraite pratiquement et t'es dans le peloton un peu de tête quand même, donc franchement non, tu nous as épaté.
Ouais, effectivement, que ce soit Ted Bjork comme Nick Casper qui sont tous les deux les pilotes titulaires, j'étais tout le week-end et pendant les deux courses dans leur chrono, ce dont je suis relativement heureux, parce que j'avoue que avant de remonter dans la race en début du meeting, j'étais pas vraiment rassuré. Ça faisait un an que j'avais pas mis les fesses dans la voiture pour faire une compétition. Donc l'énergie et la concentration demandée n'est pas la même que celle de faire du développement. Et finalement, j'ai été rassuré assez rapidement sur mes performances et j'étais suffisamment rapide pour rester autour d'eux.
Bon, bah écoute, oui, non, vraiment, tu peux être fier. Alors, je suis obligé de te poser la question, on a tous appris, de manière un petit peu affligeante, que tu avais reçu des menaces de mort. Ça semble incroyable. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu et nous dire exactement ce qu'il en a été?
Non, on va faire court, parce que je pense que ça ne mérite pas, mais effectivement, depuis l'année dernière, j'avais eu des fans d'un pilote qui se sont un petit peu acharnés sur moi pendant tout au long de l'année, et puis là, l'annonce a été faite que j'allais revenir pour cette course-là. C'était reparti de plus belle. Alors bon, d'avoir des messages désagréables de fans d'un autre pilote, on a l'habitude et on peut pas faire l'unanimité. Mais quand ces messages deviennent des menaces envers ma famille et moi-même, je pense qu'on avait largement dépassé la limite et il a fallu que il fallait que j'en parle pour que ça cesse et ça calme. Fort heureusement, je pense quand même et les messages que j'ai reçus depuis d'autres fans et des compatriotes de ce pilote m'ont montré que c'était quand même pas une majorité des gens. Mais voilà, il fallait quand même le dire pour que ça cesse.
Oui, non, mais c'est ça. Là, c'est sûr que ça a vraiment mis un coup de froid là. Et c'est vraiment très, très dommage. Bon, alors donc on va se satisfaire de ton bon retour. Hein, on le répète. Que vas-tu faire alors de tes prochains mois? Quel est ton programme quand même en 2018? Maintenant que t'es revenu, si j'ose dire encore à la retraite.
Oui, je reviens à la retraite, presque au musée en tant que pilote. Mais non, je vais continuer ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire que mes fonctions auprès de Volvo vont rester les mêmes, même s'il n'y a pas encore un programme bien défini pour 2018, mais en tout cas il y en a un pour 2019. Donc je reste au sein de cette équipe pour préparer le futur, et puis je continue à m'occuper de mon équipe qui s'engage encore une fois en LMP3, qui va aussi s'engager en GT4, et je travaille aussi sur un autre programme qui, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler, mais qui est plutôt en bonne voie.
Bon, bah écoute, ce sont des bonnes nouvelles, de belles perspectives. Ben voilà, on voulait te mettre à l'honneur, Yvan, parce que la pige que tu as effectuée, elle a été remarquable. Permets-nous de le dire une nouvelle fois encore et de te féliciter et de te remercier de ta disponibilité, bien sûr. Merci, Yvan.
Avec grand plaisir. À très
Allez,
bientôt.
À bientôt. Bonne fête de fin d'année. Yvan Muller, qui était donc en direct avec nous. Alors, il parlait de la victoire donc d'une équipe suédoise dans le championnat du monde des voitures de tourisme. Eh bien, voilà, un petit lien avec ce qui se passe en ce moment même en Suède, en direct, avec le biathlon, Julien Richard, les 10 km poursuite femme. Où en est-on?
En Suède, où il neige, où il fait nuit aussi également. Eh bien, c'est très bien parti pour la Française Justine Brezaz, qui est en tête après le troisième tir. Elle réalise un sans faute, 15 sur 15, 15 cibles abattues, aucune erreur pour la Française qui a 9 secondes d'avance sur l'Allemande Denise Hermann après 6 km 800 de parcouru. On va se rapprocher du Money Time maintenant, le dernier tir de cette poursuite, et elle n'aura jamais été dans cette position d'arriver en tête avant donc le dernier tir pour pourquoi pas décrocher la première victoire de sa jeune carrière. Justine Brezaz, 21 ans, présentée comme le futur du biathlon français, la future pépite du biathlon français. Elle est en train d'arriver sur le stade, elle devrait plus tarder à arriver maintenant, on devrait plus tarder à la voir.
Bon, écoute,
sur le stade pour son
invité. Je vais accueillir mon nouvel invité, puis tu vas nous tenir au courant, hein. On reste en liaison, Julien. Notre nouvel invité, c'est Christophe Charlier. Christophe, tu es là?
Oui, bonjour.
Alors, Christophe Charlier, on voulait te mettre à l'honneur. Peut-être que le grand public ne te connaît pas bien, mais tu as réalisé cette année un exploit unique dans le monde du sport moto en France. Et oui, tu as été double vainqueur dans ce qu'on appelle un peu les Coupes Davis de deux disciplines, l'enduro et le motocross, où tu as gagné donc cette compétition par pays. Et c'est un exploit absolument unique. Tu confirmes, et tu le sais, Christophe, d'ailleurs, que tu as réalisé un exploit vraiment qui sort du commun?
Oui, ça a été une superbe saison. J'étais parti pour faire que de l'enduro cette année, et puis il y a eu un blessé donc pour le motocross des nations. J'ai eu la chance de pouvoir donc remplacer ce blessé et de prouver ce que je valais encore en motocross. Et voilà, c'est magnifique. J'en revenais pas au début, mais ça y est, je commence à comprendre aujourd'hui.
C'est
énorme.
Ça commence un petit peu à se digérer, si j'ose dire, parce que malgré tout, c'est quelque chose d'énorme. Hein.
Voilà, donc ça a été, ça a été jamais fait, et c'est deux disciplines complètement différentes. Donc voilà, c'est vraiment énorme, et je suis vraiment heureux de. Bon. Et fier de l'avoir fait, quoi.
Ok, alors tu vas nous détailler un petit peu ça, je te propose, tu l'as compris, on va retourner au biathlon, la priorité au direct, Julien Richard, avec donc un nouveau tir là qui se profile.
Ouais, c'est le dernier tir, c'est un tir debout dans cette poursuite. Justine Brezaz s'est présentée en tête avec 5 secondes d'avance sur Hermann et 6 secondes sur Holzbu, la Norvégienne. Elle a vraiment pas de marge, il faut mettre les balles au fond pour pourquoi pas décrocher la première victoire en Coupe du Monde de sa jeune carrière. Justine Brezaz, elle est prête à déclencher pour la première balle les trois autres rivales, hein, Holzbou, Herman et l'italienne Virer, sont également en position 2 sur 2 pour l'instant pour Justine Brezza. 3 sur 3, elle prend ses responsabilités, elle enchaîne. 4 sur 4, c'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Justine Brezza, c'est la dernière, faut la mettre, la dernière, elle la met. 5 sur 5, incroyable. Et ça va être une baston de dingue, ouais, avec Denise Herman, puisque l'Allemande également a réalisé un sans faute. Ça va nous donner un dernier tour de folie avec un match entre la Française Justine Brezaz et l'Allemande Denise Herman. Les deux autres vont effectuer un tour de pénalité. Donc c'est vraiment la victoire qui va se jouer, ou la deuxième place, entre Justine Brezaz et Denise Herman dans cette poursuite.
Bon, on va bientôt voir évidemment très très vite, Julien, pour la fin de cette poursuite. Alors on va continuer avec Christophe Charlier qui est notre invité. Toi, il n'y a pas de ski, hein. Tu es corse, hein, Christophe. Et t'es peut-être là du côté d'Ajaccio où on t'appelle. C'est pas ton truc, les sports de glisse ou de montagne?
Ben, en fait, ça me plairait d'en faire, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de risques.
Oui.
Et pour mon sport, je prends pas le risque de faire du ski et snow et tout, mais voilà, quoi, c'est un beau sport, c'est magnifique.
Ben oui. Alors, les équipes de France moto ont donc gagné en 2017 les ISDE, hein, c'est 6 jours d'enduro, c'est l'équivalent, du champion du monde par nation de l'enduro mondial, et quelques jours après, le motocross des nations, où là, c'est aussi l'équivalent de la Coupe Davis du motocross. Bon, mais pour nous, c'est du tout terrain, mais pour toi, être pilote d'enduro ou pilote motocross, c'est pas la même chose. Tu peux nous détailler ça?
Alors, la différence de l'enduro et le motocross, c'est que le cross, c'est des manches assez courtes, c'est une demi-heure.
Mmh.
Et les journées sont courtes, en fait. C'est sur, 3 heures de course dans la journée. Alors que l'enduro, c'est une journée complète. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus physique. Et l'hydratation, tout ce qui est tout ça, ça devient un peu plus important. Il faut faire attention. Et après, ce qui change aussi, c'est qu'on est sur des pistes sauvages avec... beaucoup d'arbres, de racines, tout ça, donc il faut aussi faire attention.
Mm-hmm.
Et le motocross, c'est plus un circuit, c'est moins dangereux.
D'accord. Mais alors, tu venais du motocross, t'es passé en enduro. Pourquoi t'as changé?
Mais en fait, j'ai eu l'opportunité de rouler avec une des meilleures marques.
Mm-hmm.
Et voilà, j'ai eu un beau contrat donc pour signer en enduro, et j'ai voulu tenter le challenge. Et cette année, ça a plutôt pas mal marché, parce qu'on gagne donc les 6 D, et j'ai fait quand même 4 podiums, donc voilà, pour ma première saison, je suis vraiment content.
Bon, alors on va citer tes petits camarades, hein, Loïc Larieux, Christophe Nambotin, Jérémy Tarrou et Christophe Charlier, donc c'est toi-même, vous avez été vainqueur de ces 6 jours d'enduro, et puis quelques jours après, tu rejoins Romain Fèvre et Gauthier Paulin pour le motocross des nations. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est: est-ce que tu t'es remis dans le bain facilement?
Mais ça a été compliqué, mais heureusement que j'ai eu toute la structure autour de moi, avec la Fédération Française de Motocross, et Pascal Pino et l'équipe Xverna qui m'ont bien aidé. Et on a eu quand même 3 semaines d'entraînement intensif. Mmh. Donc voilà, Pascal m'a mis bien en confiance, et le plus important, c'était la confiance. Donc je suis arrivé sans pression, et voilà, on a eu beaucoup de chance d'avoir l'aide de la Fédération Française.
Bon, bah écoute, bravo. Donc à chaque fois, tu étais remplaçant, hein, tu as été un petit peu invité de dernière minute, c'est ce que tu disais. C'est en plus une sorte d'histoire incroyable.
C'est ça, ça tombait bien, voilà. Mmh, voilà,
voilà.
Ça tombait bien pour prouver... que je vais aller encore en motocross, et voilà, je suis vraiment fier de l'avoir fait.
Bah écoute,
voilà.
T'as répondu présent, et on voulait te mettre à l'honneur aujourd'hui, donc écoute, Christophe Charlier, moi j'ose dire double champion du monde par équipe, voilà, on va dire ça comme ça, enduro d'un côté, motocross de l'autre, un exploit unique dans le monde du sport moto en France par rapport à ces deux disciplines, dont tu nous as bien rappelé qu'elles étaient quand même un petit peu différentes aussi à la base. Écoute Christophe, on te souhaite un bon hiver, et puis hein, on essaiera de reprendre de tes nouvelles pour que tu nous donnes un peu ton programme 2018, c'est quoi, c'est l'enduro encore?
Ça sera pour la saison en enduro 2, donc voilà, ça sera
D'accord.
une nouvelle saison en enduro.
Bon, bah écoute Christophe, merci d'être intervenu aujourd'hui, c'était court, mais voilà, on a fait connaissance avec toi et on voulait te rendre hommage.
Merci beaucoup à vous.
Allez, salut Christophe Charlier en direct. Allez, retour en Suède, parce que la fin de course là en biathlon, Julien Richard, est-ce que Justine Brezaz tient bon?
On a voulu y croire, mais c'était trop compliqué pour Justine Brezaz qui est deuxième et qui restera deuxième. En fait, elle a face à elle Denise Herman, l'Allemande, qui est une ancienne fondeuse, donc qui n'avait pas de carabine dans le dos avant. Elle a disputé les Jeux de Sochi dans l'équipe d'Allemagne de ski de fond. Elle s'est mise au biathlon il y a 2 saisons et elle a réalisé sans faute. Et elle va remporter le doublé, puisqu'elle s'était imposée il y a 2 jours sur le sprint. Elle va remporter la poursuite dans quelques mètres maintenant. Justine Brezaz, elle, comme vendredi également, va prendre la deuxième place et va tout de même décroché son cinquième podium en Coupe du Monde avec une médaille d'argent, une deuxième place pour Justine Brezaz, 21 ans mais qui réalise certainement le premier sans faute de sa carrière dans une course à 4 tirs, hein, sans faute. Elle a aucun regret à avoir, Justine Brezaz, elle est juste tombée sur beaucoup plus forte Denise Herrmann, l'allemande, voilà, qui franchit la ligne d'arrivée, et Justine Brezaz que l'on aperçoit maintenant et qui va en terminer dans une centaine de mètres pour décrocher donc cette médaille d'argent, cette deuxième place à Östersund dans la poursuite.
Ok Julien, c'est noté, bravo quand même hein, évidemment à Justine Brezaz. Allez, on retourne aussi au rugby parce que la deuxième mi-temps a dû repartir, hein, Julien Tellier, Clermont Agen.
Ouais, c'est reparti depuis 7 minutes en seconde période, le score n'a pas évolué depuis le retour des vestiaires, toujours 21-12 pour les Clermontois, et on va avoir droit je pense à un arbitrage vidéo parce que pour un essai ou non des Clermontois, ce serait leur quatrième essai, petit coup de pied à suivre par-dessus de la part de Luc McAllister, et la course Rémi Lamora, le trois quarts centre international, qui est allé peut-être aplatir ce ballon, je ne sais pas s'il a vraiment aplati, en tout cas c'est ce que l'arbitre va chercher à voir en regardant le ralenti sur les écrans géants du stade Marcel Michelin. Pour l'instant 21-12 pour Clermont face à Agen après 47 minutes de jeu.
Merci Julien. Allez, le dernier talk dans Motor, c'est pour dans quelques instants, tout de suite.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Boutron pour cette dernière partie de Motor. Salut Benoît.
Salut LFB, bonjour à tous.
On va avoir un invité prestigieux dans quelques instants. Mais alors, on a suivi le rugby. Enfin, on continue même de suivre le rugby, clairement à Jeun. On a suivi le biathlon. Il y a aussi du football, figurez-vous, au programme. La Coupe de France, mais oui. Lens-Reims avec Jean Bobel. Salut Jean.
Salut Laurent Frédéric, bonjour à toutes et à tous. 0-0, c'est parti hein, pour le 8e tour de la Coupe de France. 4 minutes de jeu, pas de but. Et c'est un match entre deux équipes de Ligue 2. Après ce tour, ce sera les 32e de finale. Hein. Ce sera début janvier. Il y aura les équipes de Ligue 1 qui feront leur entrée en lice, et il y a eu quelques petites surprises hein, notamment des gros de Ligue 2 qui sont fait sortir durant ces 8e ce 8e tour, le Paris FC, l'AC Ajaccio, Brest, par des clubs plus petits, donc là ça, il n'y aura pas de surprise puisque c'est deux clubs de même niveau, et pour l'instant c'est assez équilibré entre les deux formations. Reims hein, qui est leader du championnat de Ligue 2 et qui vise surtout la montée en Ligue 1, la Coupe de France et du bonus, et Lens eh bien, qui galère, qui devait jouer la montée et qui va surtout penser à se maintenir en Ligue 2 et pourquoi pas faire un bon parcours en coupe pour eh bien faire plaisir à des supporters lensois qui sont pas venus allez énormément, ils sont allez pas loin de 12 000 sur un stade de 40 000, c'est quand même pas mal parce que voilà, il fait froid, c'est un horaire un petit peu inhabituel. Donc pour l'instant 0-0, 5 minutes de jeu.
OK Jean, c'est noté. Retour au rugby, Clermont Agen, ça a évolué le score hein, Julien Tellier.
Ouais, ça a évolué d'abord avec un essai accordé validé finalement après la vidéo pour les Clermontois signé Rémi Lamera, c'était le 4e essai de Clermont. Clermont menait 28-12 et à l'instant nouvel essai mais cette fois pour Agen et un triplé pour l'ailier George Tinsley. 28-17 désormais pour Clermont face à Agen. La transformation à l'instant. McIntyre, ça va passer entre les perches chez Agen qui revient à 9 points seulement des Clermontois. 28 pour Clermont, 19 pour Agen. 4 essais à 3 en faveur des Clermontois. On joue la 50e.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et LFB, le jingle colle parfaitement à l'actualité puisque tout de suite, on va accueillir un champion du monde des rallyes, le copilote de Sébastien Ogier, Julien Gracia, qui est avec nous sur RMC. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien, on est ravis de te retrouver pour mettre fin à un feuilleton qu'on avait commencé à ouvrir, mais honnêtement, il y a au moins 3 mois, hein, Benoît et
moi. On parle de vous toutes les semaines. Tous les dimanches, vous êtes à l'honneur dans Motors.
On a entretenu, Julien, le suspense, et c'est vous aussi qui l'avez un peu entretenu, hein. Continuera pas. Donc ça y est, c'est tombé cette semaine. Sébastien Ogier et toi-même, hein, son fidèle copilote, vous enchaînez bien avec une saison 2018, toujours au sein de cette équipe anglaise M-Sport et toujours donc avec une Ford Fiesta comme voiture. Julien, j'ose dire que tu nous as quand même et vous nous avez fait un petit peu peur. Moi, je commençais franchement à m'inquiéter. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dans les coulisses? Est-ce qu'on a eu raison de s'inquiéter ou pas?
Ce qui est sûr, c'est que sur la fin, c'était pas du tout mon game plan, on va dire ça comme ça, quoi, ni celui de Seb, évidemment, mais sur la fin, je pense qu'on a un peu joué de ce suspense comme ça, là, qu'on a entretenu un peu malgré nous au début, puis à la fin, j'en jouais un peu, je faisais exprès de lâcher des petits mots un peu insidieux, et je voyais bien que les gens vraiment doutaient, c'est pas ce qu'on ferait l'an prochain.
Ah, dis donc, d'accord.
C'était mon petit jeu, voilà, pour être très honnête avec vous, mais sinon, ça fait vraiment que quelques semaines qu'avec Seb on avait de toute manière pris la décision de continuer. On devait ben ouais réunir certains éléments de notre côté pour valider ce fait-là qu'on voulait continuer avec M-Sport, et bah Seb a déjà donné pas mal d'interviews par rapport à ça en disant que ça aurait été dommage. On a gagné l'an passé avec eux. On a construit une relation forte. Et puis, on le sait, quand on rallye, quoi, c'est très compliqué d'instaurer un lien de confiance, des automatismes de travail. Donc, on a gagné l'an prochain. Ça aurait été dommage de quitter une écurie avec laquelle on gagne en plein cours. Donc, ouais, très très content de poursuivre l'aventure. On se doute que l'an prochain, ça va pas forcément être facile. Pas moins que cette année en tout cas. Et puis on va mettre les bouchées doubles. On était la semaine passée en Angleterre, au nord de Manchester, au siège de l'écurie M Sport. Et puis on a célébré ça et on était une journée là-bas sur place. Et le soir même, on était déjà en train de faire un débriefing avec l'ensemble des ingénieurs de l'usine pour préparer la saison prochaine. Donc vous voyez, ça rigole.
Ah oui, bon ça y est, c'est reparti. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a le sentiment que chez nos amis anglais, ils vous apprécient beaucoup, pour ne pas dire qu'ils vous adorent. Il y a toujours une grande démonstration d'affection pour vous. On sent que pour le patron qui s'appelle Malcolm Wilson, c'était important de vous avoir. Ça doit faire chaud au cœur de se sentir comme ça, un petit peu désiré aussi.
Ouais, on le sait de toute manière, on le répète que ce soit au rugby, au foot, dans tous les sports d'équipe, on considère que c'est un sport d'équipe aussi le rallye, on peut certainement pas évoluer tout seul. Et la confiance que nous a accordé Malcolm Wilson lui a été rendue cette année. On a mis les bouchées doubles aussi de notre côté. C'est pas parce qu'on a déjà été 4 fois champion du monde qu'on peut se reposer sur ses lauriers. Il y a tout à refaire. Les batailles ont été rudes. L'an prochain, on le disait, ça va pas rigoler non plus. Donc, c'est une bonne chose quoi qu'on continue à travailler avec cette équipe qui c'est des Anglais. On avait travaillé avec les Français évidemment au début de notre carrière quoi avec Citroën. Mm-hmm. Ensuite on était passé chez les Allemands. Il y a des différences de culture, différences de travailler. Donc au niveau humain c'est très intéressant là de débarquer chez les Anglais. Le seul petit regret que j'ai pour l'instant c'est que j'ai pas réussi à attraper des cuisses de grenouille pour la journée qu'on avait chez eux la semaine dernière. Je m'étais promis que je leur apporterais des cuisses de grenouille quoi. Pour les embêter un peu, c'est parti remise.
C'est français.
Explique-nous, parce que c'est vrai que le rallye est un des rares sports auto-moto collectifs. Vous êtes deux dans la voiture, évidemment, pour chaque épreuve des rallyes. Explique-nous comment se passent les négociations. Qui prend la décision finale? Est-ce que, je voudrais pas minimiser ton rôle, mais est-ce que le pilote a une part plus importante dans la décision que le copilote?
Alors voilà, moi je suis très clair par rapport à ça. De toute manière, s'il y a quelqu'un qui a un talent pur et le pouvoir de conduire une voiture à ces vitesses-là, c'est le pilote. Et je ne me fais pas du tout quoi de d'illusion par rapport à ça. Après, on sait que le rôle du copilote est hyper important aussi. Faut juste essayer de pas comparer les deux entre guillemets et dire que ce sont juste des jobs complémentaires. Mais pour répondre à ta question, quoi, quand on arrive dans des phases comme ça de discussion avancée, de négociation, on parle de contrat, on parle sans parler de sous non plus. On parle aussi de projection dans l'avenir. Quoi. Quels sont les meilleurs choix pour nous pour avancer? Je me souviens par exemple que quand on a dû quitter Citroën en fin 2011, je me souviens on habitait à 4 km l'un de l'autre avec Sébastien et on s'est retrouvé un peu dans une à se prendre la tête, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On était entre guillemets encore jeunes à ce moment-là, on était tout seul, on n'a jamais eu vraiment de manager pour nous suivre, etc. Donc on s'est vraiment débrouillé tout seul et je me suis retrouvé chez Seb un vendredi du mois de novembre. On s'était discuté, on savait pas quoi faire et puis au final il faut qu'on prenne une décision. On avait fait notre petit calcul, quoi, les plus, les moins. Et puis, je débarquais chez lui. Il était sur sa table. Il savait pas quoi faire. Je dis, allez, vas-y, appelle Carlos. Donc, Carlos Sainz, c'était la personne qui était notre interlocuteur chez Volkswagen à ce moment-là. Et, je dis, allez, de toute façon, on a posé le pour et le contre. On hésite encore. Il faut prendre une décision. C'est celle qui nous paraît la meilleure. Il a pris le téléphone. Il a appelé Carlos. Et puis, l'aventure avec Volkswagen a commencé. Donc, ça pour dire qu'on est en concertation et que, sur ces points-là, on n'a jamais été en désaccord. Voilà.
Au moins c'est franc. Le temps passe trop vite, Julien. On va te remercier parce que c'est déjà la fin de l'émission. Mais on voulait t'avoir un peu en exclusivité pour bien confirmer cette très très bonne nouvelle. Et puis attention, ça se précise très très vite. Le rallye Monte Carlo, c'est fin janvier.
C'est demain.
Donc
c'est
le compte à rebours est entamé. C'est demain. C'est exactement ça.
Tout ça. À bientôt.
Merci Julien. Merci beaucoup. Salut. Bon alors, on termine sur les chapeaux de roue cette émission Motors. Mais alors, c'est moi qui voulais te poser une question, mon cher Benoît.
Vas-y, je t'en prie.
Parce que le Dakar, tu penses bien que je vais suivre ça aussi début du mois de janvier. janvier. Évidemment. Alors j'ai appris qu'André Villas-Boas allait participer au Dakar. Et ça, ouais. Je sais que tu le connais mieux que moi, parce que c'est quelqu'un du foot.
Évidemment, c'est quand même une info à retenir. André Villas-Boas, coach passé par Porto, Chelsea, Tottenham, le Zénith Saint-Pétersbourg ou encore récemment Shanghai. Effectivement, c'est la surprise de la semaine. Il se lance dans le sport auto. Bon, pour info, on rappelle, hein, il a gagné notamment la Ligue Europa avec Porto en 2011.
C'est ça, ouais.
Effectivement, il se lance dans cette nouvelle aventure. On lui a proposé une prolongation à Shanghai. Il l'a refusé. Il veut se lancer dans de nouveaux projets. André Villas-Boas. Et ce qui est assez amusant, tu as vu, son idée de départ était de le faire en moto.
Là, je crois qu'on a eu raison de lui dire que
sans préparation, c'est impossible.
Ouais, non. Mais en tout cas, voilà un défi qui est bien dans l'histoire du Dakar.
Exactement.
Le challenge, une personnalité
un
qui vient.
Un coach encore en activité, qui est assez jeune, hein, André Villas-Boas, puisqu'il a tout juste 40 ans. Mm. Et c'est vrai qu'on va le suivre attentivement sur le Dakar. Pour info, il sera au volant d'un pick-up Toyota Hilux. Hein, donc, on le suivra attentivement. Mais un vrai défi qu'il se lance avec un de ses compatriotes, Ruben Faria, qu'on connaît bien sur le Dakar, parce qu'il avait terminé deuxième, lui, en moto en 2013, assez récemment. Donc, un parfait connaisseur du Dakar. Qui sera aux côtés d'André Villas-Boas, qui sera bien le pilote, hein, c'est ce qu'il faut dire.
C'est ça, on est bien d'accord. Bon, ben voilà, c'était la dernière nouvelle de la semaine qu'on voulait vous donner. Motors s'arrête là. La semaine prochaine, c'est Jean-Luc Roy qui sera au micro. Et je vais céder dans quelques instants, bien sûr, la parole à Arnaud Souk, qui va vous présenter tout au long de l'après-midi l'Intégral Sport. Salut à tous!